enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bien, j'aimerais ce matin, pendant quelques instants, parler encore une fois, et c'est la cinquième fois, sur le prix de l'autorité. J'en ai parlé il y a 15 jours, et nous avions abordé le thème de la prière. Savez-vous que prier, c'est un merveilleux privilège. Prier, c'est une grâce. Vous avez le droit de demander à Dieu par Jésus. Ma petite nièce a compris, enfin maintenant elle est grande, parce qu'elle est mariée, mais à l'époque elle avait compris qu'on a le droit de demander. Un jour, alors que Tania était avec sa maman, arrive une cliente de sa maman, et puis lorsqu'elle voit la petite Tania, elle lui dit « Oh mais ma petite puce, mais je savais pas que tu serais là, oh mais si j'avais su j'aurais emmené du chocolat, maintenant j'ai rien emmené, j'aurais tellement aimé te donner du chocolat. » Et la petite regarde la dame et dit « Il n'y a pas de problème, je prends aussi l'argent. » Vous avez le droit de lui demander. Librement. C'est cette maman qui portait ce petit garçon, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous savez, dans le passé, chez le boucher, on recevait toujours « a ringtekwurst ». Hein ? Moi, j'aimais aller chez le boucher pour ça, pour le « ringtekwurst ». Et à force, ben, je sens où le « tekwurst » il est, hein. La saucisse de viande, c'était toujours un bout de saucisse de viande. Et c'est cette maman qui tient son petit garçon et qui lui dit « Alors, qu'est-ce qu'on dit à la dame après qu'il ait reçu son bout ? Qu'est-ce qu'on dit ? » Est-ce que vous n'avez jamais dit ça à vos enfants ? « Qu'est-ce qu'on dit ?» Et le petit garçon, d'un ton assuré, dit « Encore. » Eh bien, c'est ça la prière. Encore. Tu as le droit de demander « Encore. » Cependant, ce matin, pour revenir au prix de l'autorité, mon thème sera la prière d'autorité. Prier au nom de Jésus. Il y a 15 jours, lorsque nous avions abordé le sujet, nous avions lu le texte que nous connaissons maintenant par cœur, n'est-ce pas, après 5 fois qu'il est cité, qu'est-il écrit dans Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Qui désire devenir semblable au maître ? Lorsque je réfléchissais à ça, je me disais, mais il y a un décalage entre le maître et nous au niveau de la prière. Lorsque le maître priait, Dieu l'exaucait. Marthe, la sœur de Lazare, verra même en lui celui qui, lorsqu'il demande à Dieu, est toujours exaucé. Cependant, lorsque je réfléchis à nous autres, ses disciples, je me dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous sommes exaucés de temps en temps, certains rarement, et d'autres pas du tout. Cependant, nous continuons fidèlement à prier. Et nous ne nous arrêtons jamais pour nous poser la question « Pourquoi ça ne fonctionne pas mieux que cela ? Pourquoi n'ai-je pas plus de réponse dans la prière que cela ?» Non, nous persévérons. Ça fait 30 ans qu'on prie sans réponse, mais ça fait 30 ans qu'on prie. J'avais pris une petite image. Pour ceux qui désirent le message, il est disponible. J'avais simplement dit, pour nous ramener finalement sur le plancher des vaches et sur la réalité, imaginez que chaque matin quand vous entrez dans votre voiture, vous vous asseyez dedans en sachant d'avance que de toute manière vous allez terminer le voyage à pied parce qu'elle ne fonctionne pas. Est-ce que vous continueriez honnêtement à vous asseoir chaque matin dans la voiture qui ne fonctionne pas. Pourrais-je avoir de cette sainte rassemblée une réponse? Évidemment que non! Que feriez-vous? Avant de changer de voiture, vous chercheriez à la réparer, à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Maintenant, expliquez-moi pourquoi, de manière paradoxale, nous prions depuis 30 ans sans que rien ne se passe et on se pose pas de questions. Hello! Nous avons cherché à trouver la réponse. Et nous avons trouvé une réponse. Mais je ne vous la donnerai pas, vous écouterez le message. Ce matin, prier avec autorité, c'est prier au nom de Jésus, et c'est mon premier point. Lisons ensemble. Jean 16, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Le Seigneur Jésus n'aspire à rien d'autre qu'à te voir, à me voir, à nous voir, avoir une joie parfaite. Dans le chapitre 14, au verset 12, nous lisons « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Cependant, il me semble qu'au niveau de la prière, nous ne faisons pas encore les œuvres qu'il a faites. Et nous devrions y aspirer et ne pas avoir de repos avant de les faire. Et il continue en disant, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Tout d'abord, il me semble important de préciser à quel public Jésus s'adressait. Lorsque Jésus leur parle, en les enseignant à prier en son nom, il ne s'adressait pas aux grandes foules, il s'adressait uniquement à ses disciples. Bien-aimés, c'est extrêmement important de comprendre cela. C'est à ses disciples qu'il donne cet enseignement. Le sentiment que j'ai personnellement, c'est que très souvent, j'ai l'impression que la foule veut s'emparer de l'enseignement de Christ comme si elle y avait droit, alors qu'elle refuse d'être disciple. Elle s'étonne après que rien ne fonctionne. Mes amis, c'est aux disciples qu'il parle, et cette promesse se réalise pour les disciples, mais pas pour n'importe qui. N'importe qui ne peut prier avec autorité. N'importe qui ne peut invoquer le nom de Jésus avec force et puissance. Il nous faut d'abord être disciple. Alors que signifie demander dans le nom de Jésus? Alors que j'y réfléchissais, m'est venue cette pensée, quand le disciple est comme son maître, il peut prier au nom de son maître. Dis-le voir à ton voisin. Quand tu es comme le maître, tu peux prier au nom de ton maître. Tu as de l'autorité. Prier au nom de Jésus, c'est prier à sa place. Comme ses représentants sur terre, nous sommes ensemble ses ambassadeurs. Rappelez-vous ce que Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous et moi, nous sommes des ambassadeurs. Est-ce que vous vous comportez en ambassadeur? Est-ce que vous êtes digne du royaume que vous représentez? N'est pas ambassadeur qui le veut. C'est au prix souvent de grands efforts que l'on devient ambassadeur. S'il pouvait être ambassadeur qui le voudrait, ça saurait. Mais je ne vous explique pas l'état de l'humanité. la fonction d'ambassadeur étant tellement importante, celui qui l'a remplie, celui à qui l'on a délégué l'autorité de son pays, doit être digne du pays qu'il représente. Il en est ainsi pour nous. Nous devons être dignes de celui que nous représentons. Prier au nom de Jésus implique chercher sa gloire, être des représentants authentiques, comme à Antioche, vous souvenez-vous ? La Bible nous dit que là-bas, les habitants d'Antioche les appelèrent chrétiens. Et nous l'avions vu ensemble, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils voyaient en eux de petits Christ. En fait, c'était un sobriquet qu'on employait pour se moquer d'eux. Mais dans la réalité, il y avait quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on voyait en eux Jésus. Vos voisins voient-ils en vous Jésus ? Oui, certains rient, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein ? Dans le lieu de travail, voit-on en nous Jésus ? Le lundi matin en particulier. Je m'adresse là à tous mes frères. Quand vous êtes au volant de la voiture, voit-on Jésus ? Je vous laisse du temps pour réfléchir. Peu crie amen de peur de mentir. Le nom de Jésus n'est pas un mot magique que vous employez comme une baguette à votre guise. Comprenez bien cela. Vous savez, certains sont venus me voir en me disant « Mais j'ai prié, et j'ai prié au nom de Jésus, et il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai, moi j'ai rien vu !» Vous oubliez qu'il y a toujours des conditions rattachées à ce que Jésus dit. Il y a des conditions, non pas que Dieu nous exauce parce que nous remplissons ces conditions, mais tout simplement parce que l'essence même du chrétien devrait être d'aspirer à lui être semblable. Et c'est alors une conséquence normale et logique. Mais le nom de Jésus, vous ne pouvez pas l'employer à votre guise comme vous le voulez. Ce n'est pas la baguette que vous allez utiliser pour avoir des exaucements à droite, à gauche, non, non. Et j'en arrive là, ce que dit Jean au chapitre 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Le nom de Jésus a de l'autorité parce que celui qui le prononce est en accord avec celui qui est au ciel. Nous ne pouvons pas et vous ne pouvez pas et je ne pourrai jamais utiliser le nom de Jésus à ma guise. Il y a même, et c'est mon deuxième point, un danger d'utiliser le nom de Jésus sans être digne. Il y a un danger d'utiliser le nom de Jésus sans en être digne. Dans le livre des Actes, deux hommes, les fils de Sceva, vont en faire l'expérience malheureuse. Écoutez bien ce qu'il est dit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Un peu plus loin, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit à 10 mètres de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il y a un danger d'utiliser le nom de Jésus alors que l'on ne vit pas en conformité avec lui. Il y a un danger à utiliser le nom de Jésus, à tort et à travers, lorsqu'on mène une vie qui ne le glorifie pas. Écoutez ce que Jésus dit lui-même. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Enfin, c'est ça. Je peux vous dire du fond de mon cœur que je vous aime. Mon objectif n'est pas de vous faire la morale, mais de nous rappeler des éléments essentiels partagés par Jésus afin que nous ayons de l'assurance dans la vie chrétienne que nous menons. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, calmer votre conscience, pour qu'un jour, vous non plus, vous ne soyez pas connus. Jésus dira, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, prophétisé par ton nom, fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Dramatique, terrible. Je ne vous ai jamais connus. Vous n'avez jamais été des hommes et des femmes en relation avec moi. Vous n'avez jamais accepté de mourir à vous-même. Vous n'avez jamais diminué afin que je croisse en vous. Le démon dira au fils de Séva, je connais Paul. Oui, je sais que cet homme sert le Dieu vivant. Je sais que l'évangile qu'il prêche, il le vit. Je sais que Dieu lui a donné de l'autorité. Oui, je connais Paul, Jésus, bien sûr que je le connais. Mais vous, vous, je ne vous connais pas. Jésus plus loin, encore une fois, dira, je ne vous ai jamais connu. Ces paroles doivent nous interpeller, être pris au sérieux. Mes amis, elles doivent être prises au sérieux. Lorsque vous sortez de cette église, mon désir, c'est que vous deveniez d'authentiques disciples de Christ, revêtus de son autorité. Pas des hommes et des femmes qui ont une espèce de vie religieuse qu'ils arrangent à leur sauce tant que, eh bien, ça leur convient, c'est bien. Le jour où cela ne leur convient plus, ils laissent tout tomber. Des hommes et des femmes capables de dire, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Des hommes et des femmes qui ont décidé, eh bien, d'aller de l'avant. Ce matin, frères et sœurs, permettez-moi de nous rappeler que Jésus donne une parabole et elle est lourde de signification. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13, je ne vais pas prendre toute cette parabole, vous la lirez à la maison, mais c'est la parabole des 10 vierges. 10 vierges. Elles avaient tout un vêtement. Elles avaient toute une lampe. Elles avaient énormément de choses qui étaient semblables. Pourtant, lorsque le maître reviendra, elles ne sont pas enlevées à sa rencontre. Mais écoutez ce qu'il leur dit. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Encore une fois, « Je ne vous connais pas. » Mon souci en tant que berger de l'Église, c'est que nous soyons tous connus auprès de Dieu. À commencer par mon propre nom. Que nous soyons connus, je ne vous connais pas. Le malheur de ces vierges, c'est qu'elles ont toujours remis à demain ce qu'elles devaient faire. Et est arrivé le jour où il était trop tard. Je suis sûr qu'il y a bien des fois où elles ont dû se dire, tiens, on n'a plus d'huile, on pourrait en chercher, demain ça suffira. Pour l'instant, je mène encore la vie que je mène. Pour l'instant, je suis heureux dans ce que je fais. Pour l'instant, le compromis que je fais fonctionne bien. Demain, mais mon frère, ma sœur, arrivera le jour où il sera trop tard. Nous ne pouvons pas employer le nom de Jésus à notre guise. Nous ne pouvons pas l'employer comme nous le voulons parce que c'est dangereux. Jésus dira dans Matthieu 24, verset 5, beaucoup, en effet, viendront en se servant de mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils égareront une multitude de gens. C'est intéressant. Évidemment que c'est dans un autre contexte. Des hommes qui viendront séduire les foules, en disant, c'est moi le Christ, suivez-moi. Jésus dit bien, en se servant de mon nom. Dans ce contexte-là, le nom de Christ sera usurpé par des hommes et des femmes qui chercheront à en séduire d'autres. Mais ma question ce matin, lorsque nous prions en son nom, alors que nous vivons une vie qui n'est pas en accord avec sa parole, alors que nous ne voulons même pas être des disciples, ne sommes-nous pas de la même manière en train d'usurper son nom ? Lorsque nous prions et nous savons délibérément, je vous parle pas de celui qui est momentanément tombé, je vous parle de celui qui s'est installé dans son péché, qui vit dans le péché, mais qui conjugue sa vie chrétienne avec le péché et qui vient tranquillement le dimanche matin ou le mardi soir, il lèvera les mains, il dira Seigneur, Seigneur, mais mon ami, mon frère, écoute-moi, tu es en danger. le danger d'entendre un jour cette phrase terrible « Je ne te connais pas ». Il nous faut prendre les paroles de Christ au sérieux. Lorsque nous prions au nom de Jésus, tout en vivant dans le péché, nous usurpons son nom et nous l'utilisons alors que nous n'avons pas le droit de le faire. L'autorité du nom de Jésus est toujours en relation avec la place que Jésus a dans votre vie et dans ma vie. Toujours. Ça m'amène au troisième point. Qui peut alors utiliser le nom de Jésus? Qui peut l'utiliser? Premièrement, et je commence là par la base, par l'ABC, ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient, dans Marc 16, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croient en son nom. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez la suite. En mon nom. Et là, ça commence. Ils chasseront les démons. En mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. Ce matin, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Vous ne pouvez invoquer le nom du Seigneur tant que vous ne croyez pas en lui. La condition pour commencer à prier au nom de Jésus et la genèse, eh bien, c'est le fait de venir à lui, de reconnaître que vous êtes pécheur, perdu, que vous avez besoin de lui comme sauveur et de le recevoir dans votre cœur. À partir de ce moment-là, vous pourrez commencer à invoquer son nom et je sais qu'il vous répondra. Deuxièmement, qui peut invoquer le nom de Jésus? Et là encore, je dis des choses de base, mais que nous oublions tant de fois. Ceux qui ont renoncé au péché. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont renoncé à vivre selon le principe du péché. J'ai pas dit qu'il ne leur arrive jamais de tomber. J'ai dit que dans leur vie, ils n'acceptent plus le principe du péché. Par exemple, ils refusent le principe de la médisance. Et là, j'ai qu'une réponse. Oui, parce que le péché, c'est pas seulement tromper sa femme. Le péché, c'est, dit la Bible, quand tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu as péché. Hello? Le péché, c'est pas seulement ce que tu as mal fait. Mais c'est ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. C'est des hommes et des femmes qui refusent de laisser la jalousie les dominer. Des hommes et des femmes qui refusent de juger leur prochain. Des hommes et des femmes qui refusent de rejeter quelqu'un. Je m'arrête là, mais écoutez ce qu'il est dit. Dans 1 Jean 3, versets 4 à 10. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Qui, ce matin, dans ce lieu, a déjà reçu Jésus? Levez voir votre main. Tous ceux qui ont reçu Jésus, qui savent, moi, Jésus est dans mon cœur. Ce texte nous concerne. Ce texte te concerne. Celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. N'essayons pas d'interpréter cette parole. C'est écrit et c'est clair. Il n'y a pas à rajouter un « oui, mais peut-être que… » Non. À partir du moment où tu sais lire en français, tu comprends le français. Ce que l'Écriture est en train de te dire, c'est bien ce que Dieu voulait te dire. Et il n'y a plus rien à y bouger. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Fait-on la différence dans nos vies? Sommes-nous différents par le seul fait de refuser le péché? Sommes-nous différents, frères et sœurs? Avons-nous le courage de nous démarquer? Les jeunes gens, je m'adresse à tous les jeunes gens qui sont ici. Quand il y a de la pression sur vous, quand les autres viennent et vous disent « Mais quoi, tu couches pas? Qu'est-ce que tu dis? T'es vierge? T'as quel âge? T'as 20 ans ?» T'es pas vierge, t'es malade. Quand ils viennent et qu'ils cherchent à vous conformer, vous à eux, j'aimerais que vous réagissiez de la manière suivante. Relevez votre tête, soyez fiers. Et dites-moi, je me garde pour celle que Dieu me donnera. Vous recevrez de lui la force dont vous avez besoin. N'imaginez pas que le monde se porte bien. L'autre jour, je voyais des statistiques. Elles m'ont effrayé. Dans les milieux homosexuels, suite à une enquête sérieuse, eh bien, l'on a constaté que le suicide parmi les homosexuels est entre 400 et 600% supérieur à celui des hétérosexuels. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des enquêtes. C'est-à-dire qu'ils se suicident 13 fois plus. Oh, ne dites pas, oui, mais quand même, le suicide, c'est... L'autre jour, ma fille Sarah venait de Dijon à Mulhouse. C'est pas loin, vous êtes d'accord? Elle avait deux trains à prendre. Besançon, Dijon, Besançon, Besançon, Mulhouse. Elle appelle ma femme, elle lui dit, j'arrive en retard. Il y a eu un suicide sur la voie entre Dijon et Besançon. Bien. Elle arrive à Besançon. Elle reprend le train pour Mulhouse, elle appelle de Belfort, elle dit « Nous sommes à nouveau arrêtés, il y a un deuxième suicide sur la voie entre Besançon et Mulhouse. » En un trajet, deux vies qui sont parties, dans quelles conditions? Déchiquetées. Le péché aura toujours comme but ultime votre destruction, mais plus encore, vous priver de l'éternité. C'est pourquoi, eh bien, celui qui prie au nom de Jésus est un homme qui refuse le principe du péché. J'ai pas dit qu'il a pas de combat. J'ai pas dit qu'il tombe jamais. J'ai pas dit qu'il a pas des moments de faiblesse. Mais c'est un homme qui, dans l'absolu, refuse le principe et cherche à vivre comme Christ. Des hommes, des femmes, et c'est un troisième aspect, qui sont prêts à souffrir à cause de son nom. Écoutez bien ce qu'il est dit dans l'Écriture. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Son nom, écoutez-moi bien, son nom, nous voulons surtout l'employer quand il nous arrange, n'est-ce pas? À prier au nom de Jésus, être exaucé au nom de Jésus, faire marcher les paralytiques au nom de Jésus, ouvrir les yeux aux aveugles au nom de Jésus, ça, tout le monde en demande. Mais le même nom peut engendrer également d'autres choses. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un peu plus loin, dans Actes 5, 40, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Un peu plus loin, Actes 21, l'apôtre Paul dit la chose suivante. Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Hello. Ça change la musique. À le nom de Jésus, d'accord. Pourvu que ça aille toujours dans le sens du bien-être. Croyez-vous que Dieu va donner de l'autorité à ceux qui ont honte du nom de Jésus? Il dit, celui qui ne me témoigne pas devant les hommes, je ne témoignerai pas devant le Père qui est dans les cieux. Nous ne pouvons pas espérer prier avec autorité au nom de Jésus comme il nous l'enseigne si nous ne sommes pas prêts également à souffrir à cause du nom de Jésus. Certains savent ce que ça veut dire. Ils ont été rejetés par leur famille, ils ont été rejetés par un conjoint à cause du nom de Jésus. Ils ont été rejetés d'un lieu de travail à cause du nom de Jésus. Actuellement, alors que nous sommes assis ici et que Dieu soit béni de ce que nous avons, cette grâce, dans d'autres pays comme le Pakistan, la Chine, bien d'autres endroits dans le monde, des hommes et des femmes payent le prix fort à cause du nom de Jésus. Mais je peux vous dire une chose, et je l'ai vu en Algérie, là où les hommes et les femmes sont prêts, même à souffrir à cause du nom de Jésus, la gloire de Dieu se manifeste. quand nous prions en Algérie, il y a tant de guérisons et des guérisons miraculeuses. Ce qui m'amène à dire, mais la différence, c'est qu'ils sont prêts à payer tout le prix. Ils ne cherchent pas un Jésus du bien-être, mais ils ont découvert en lui le seul sauveur. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. Dans l'Épître aux Hébreux, après avoir parlé d'hommes de foi comme Moïse et Abraham, il nous a dit la chose suivante. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et moi, la question que je me pose ce matin, c'est: Seigneur, as-tu honte de t'appeler mon Dieu? Ou au contraire, n'as-tu aucune honte quand tu parles de Samuel? N'as-tu pas honte d'être appelé mon Dieu simplement parce que tu sais que je cherche au travers de toute ma vie à te plaire? C'est ça la question de fond. Et tu peux te la poser individuellement. Georges, Béa, Papa Jean, Patrick, nous pouvons nous la poser. Dieu peut-il être fier des enfants que nous sommes? Peut-il être fier des hommes, des femmes, des fils, des filles que nous sommes? En un mot, peut-il être fier de ses disciples, disciples du 21e siècle? Quand Dieu te regarde-t-il avec une telle joie qu'il a envie de dire à Satan la même chose qu'à Job? As-tu remarqué mon serviteur Huberlé? Certains se disent, je préfère qu'il ne parle pas de lui, je préfère qu'il ne lui en parle pas parce que ça s'est passé mal pour Job. Aujourd'hui, on va retenir l'essentiel. Frère Gerbeau, peut-être maintenant qu'il est en train de lui dire à l'accusateur des frères, as-tu remarqué Eric, mon serviteur? Frère Holder, s'il en parle, c'est pas parce que tu es un bon pépiniériste. S'il en parle, c'est à cause de toi. As-tu remarqué mon fils? Satan, as-tu remarqué Jean Bol, mon serviteur? L'as-tu remarqué? Peut-il le dire? Ou est-ce que Satan va tout de suite avoir des arguments? Auprès de Job, il avait un argument. Il dira, oui, mais attends. Te sert-il de manière désintéressée? C'est quand même un peu intéressé qu'il te sert. Cependant, tant que Satan n'a de droit en vous, il ne peut rien dire de plus. Rien dire de plus. Et là, quand tu pries alors avec autorité au nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus est-il puissant? Et c'est mon quatrième point. Matthieu 28, 18. Donnez-moi encore 5 minutes. De toute manière, je suis moi aussi pressé, puisque je prêche à Dijon à 15h. Alors, vous êtes sûr que le rôti, vous allez le manger à temps aujourd'hui. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Waouh ! Maintenant que tu es en accord avec lui, maintenant que sa parole demeure en toi et que tu demeures en lui, maintenant que tu sais que tu es son disciple et que tu le suis, même s'il y a des hauts et des bas, comme Pierre, tu commences à prier avec assurance parce que tu sais ce qu'il y a derrière le nom de Jésus. C'est pas seulement le nom de Jésus, c'est tout ce qu'il représente. Toute puissance m'a été donnée sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Saviez-vous qu'avant, sur la terre, celui qui avait l'autorité, c'était Satan? Hello? Faudrait peut-être pas l'oublier. Il a été rejeté sur terre et c'est lui qui avait l'autorité. Jésus vient sur cette terre, lui résiste en tant qu'homme sur cette terre, tout en étant Dieu. Mais dans la tentation, il ne fait pas appel à la divinité, il lui résiste. Troisièmement, il triomphe de lui à la croix et il lui enlève l'autorité qu'il avait pour reprendre cette autorité sur la terre. Jésus est maintenant Seigneur dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Toutes choses lui appartiennent. Lorsque tu pries au nom de Jésus, le diable ne peut que faire une chose, c'est trembler. Mais il tremble seulement quand il sait que toi tu es en accord avec lui. Tu crois que le diable tremble devant n'importe qui? Les fils de Séva ont appris à leurs dépens que non. Les pauvres, ils se sont fait rosser tous les deux. Moi, je voudrais pas me faire rosser. Alors, il y en a qui me diront, ouais, ben, c'est pour ça que je prie pas pour les posséder, hein. Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est que tous, nous libérions les captifs. Mais en sachant que parce que nous sommes en relation, en accord avec Dieu, l'autorité de Christ repose sur nous. Tout ce qui vous condamnait et qui lui donnait un droit n'est plus. Hello ? Mince alors, vous devriez être sur les chaises en criant « Yeah !» Quand je suis, moi je vous le dis, quand je suis en Afrique, ça me plaît. J'étais au Togo et quand je prêchais, suivant ce que je disais, un truc comme ça par exemple, des gens se levaient dans l'auditoire. « Yes, pastor, preach! Preach, pastor, preach! Preach !» Mais là, t'as un feu, t'as envie de t'as envie de... Ah, c'est peut-être pour ça. T'as envie de prêcher 3 heures, c'est peut-être pour ça que vous le faites pas. Vous dites pas qu'il a envie de continuer, hein. Faut surtout pas l'encourager, ça pourrait le provoquer dans la durée. Il est dit, Colossiens 2, vous qui étiez morts par vos offenses, Samuel, toi qui étais mort par tes offenses et par l'incirconcision de ta chair, il t'a rendu à la vie en te faisant grâce pour toutes tes offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il était long l'acte qui me condamnait. Et qui subsistait contre toi. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et maintenant, je peux venir avec assurance devant le trône de la grâce. Et quand Satan vient, je lui dis, fais gaffe Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Jésus dira que l'ennemi de son âme, le diable, ne trouvait rien en lui. Mon frère, ma sœur, que Satan ne trouve rien en toi. Et s'il trouve rien en toi, tu as de l'autorité dans la prière. Il se produit quelque chose. Dernièrement, ouah, quand je prêche là-dessus, quand nous invoquons le nom de Jésus, l'enfer tremble. Vous savez pourquoi ? Parce que nous, quand nous invoquons le nom de Jésus, nous avons toujours encore le petit Jésus de la crèche. Hein ? Beaucoup de gens, ils ont le petit Jésus de la crèche. Vous savez, celui qu'on sort à Noël. Ouh, goulis, 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 goulis. Et après la fête de Noël, hop, on le range de nouveau dans l'armoire. D'autres, ils font pire. Il est en sucre. Ils le prennent, et à la fin de la fête, ouh, goulis, 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 goulis. Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, vous le digériez, mais au travers de sa parole. De sa parole. Écoutez, quand nous invoquons le nom de Jésus, savez-vous ce que les démons voient? Est-ce que le diable voit? C'est pas Jésus qui était au bord du lac. Ce n'est pas le Jésus à 12 ans. Écoutez ce qu'il voit. Il voit exactement ce que je vais vous décrire. Apocalypse 1. Jean a une vision et il dira, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Pourquoi croyez-vous que les démons tremblent ? Parce que c'est la vision de Jésus dans la gloire qu'ils connaissent. Et ils savent que contre lui, ils ne lèvent même pas le doigt. C'est pourquoi lorsque nous commençons à prier au nom de Jésus, eh bien, nous invoquons le nom de celui que Jean est en train de décrire, qui est dans la gloire. Dernier point. Prier au nom de Jésus, c'est prier selon sa volonté. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, comment ? Selon sa volonté, il nous écoute. Quelle est sa volonté ? Il dira... Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Jean 14, 12 à 14, je le ferai afin que le Père soit glorifié. C'est-à-dire que Jésus répondra chaque fois que le Père est glorifié. Rappelez-vous que Jésus n'a jamais rien cherché d'autre que la gloire du Père. Si vous priez que c'est votre gloire que vous cherchez, vous ne serez jamais exaucé. Jésus n'a jamais dit que le fait d'employer son nom serait une garantie pour que ça marche toujours, non. Jésus nous dit que chaque fois que nous prions en son nom, étant en accord avec lui, demandant quelque chose qui glorifie le Père, il nous l'accordera. L'apôtre Jacques dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux. Et il dira, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il n'exauce pas nos passions. Jamais. Merci Seigneur de ce que tu ne les exauces pas. Savez-vous que c'est une protection? Le fait qu'il ne nous exauce pas, c'est une protection. Est-ce que vous exaucez tous les vœux de vos enfants? Papa, tu me prêtes juste le fusil de chasse de 2 minutes, je voudrais l'essayer. Il a 3 ans. Vous le faites? Mais oui, mon petit bout de chou, mais oui, je peux rien te refuser. Et puis moi, j'enterre le grand-père. Eh ouais. Non, nous ne l'accordons pas parce que nous savons que ce n'est pas bon. Les disciples Jacques et Jean, eux arrivent au milieu des Samaritains. Les Samaritains ne les reçoivent pas. Regarde ce qu'ils disent à Jésus. Jésus, écoute-nous. Est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le ciel, le feu du ciel pour les griller? Et que dit Jésus? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Quand tu pries, Seigneur, atomise mon voisin. Il n'a de nouveau pas fait l'escalier. C'était son jour. Quand tu pries, Seigneur, que mon chef ait de telles crampes d'estomac que plus jamais il crie avec moi. Tu crois qu'il t'exauce? Attendez, vous riez. Vous croyez? Moi, j'ai entendu des prières faramineuses. Frère, priez. J'en ai marre de ma femme. Je voudrais tellement en rencontrer une autre. Ah mais ouais. Ah mais oui. Ah mais vous pouvez pas vous imaginer. Non, non. Dieu peut pas, c'est nos convoitises. Prier au nom de Jésus, c'est être en accord avec son objectif. Et son objectif, en l'occurrence avec les Samaritains, c'était pas de les perdre, c'était de les sauver. Que se passe-t-il quand nous prions en son nom? C'est mon 6e point. Et le dernier. Certains disent, ça fait 2 fois qu'il dit le dernier. Non, non, je sais, je lis dans les... Oui, j'entends ça jusqu'ici. Mais c'est vraiment le dernier cette fois-ci. Écoutez bien, quand il prie en son nom, les disciples par exemple. Acte 4, 29 à 31. Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. Comment? Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et qu'est-ce qui se produisit? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Ah, c'est mon rêve. Qu'un dimanche matin, ça tremble ici. Pas à cause d'un tremblement de terre, hein? Non, non, que ça tremble parce que l'Esprit de Dieu vient nous visiter. Vous savez ce qui va se passer quand ça va trembler? Tous ceux qui n'ont pas une vraie relation avec Dieu et qui ne sont pas encore en règle avec lui vont partir en courant, ils ont peur de mourir sous le toit. Ne resteront que ceux qui savent, ça c'est l'Éternel. Ça c'est l'Éternel. Oh, puisses-tu trembler devant lui? Plus puisses-tu trembler devant lui. Lorsque Pierre et Jean montaient au temple, regardez, acte 3, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Encore une fois, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Frères et sœurs, vous ne trouvez pas que c'est une autre vie chrétienne, ça? Hein? Franchement, vous arrivez à Mulhouse, il y a un boiteux qui est là assis, ça fait 10 ans qu'il est là, tout le monde le connaît. Et là, Jean-Claude, tu arrives et tout d'un coup, tu sens que Dieu veut le lever. Tu vas vers lui, dis, écoute, j'ai rien. Parce que nous, les hommes, en général, on n'a jamais rien. C'est nos femmes qui ont tout. Nous, on n'a rien. Si? Juste le droit de faire qu'elles ont quelque chose. Voilà. J'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, fous-y! Lève-toi. Ça va venir. Dieu est en train de parler à mon cœur depuis des semaines et des semaines. C'est pour ça que j'ai ces séries de prédications. Parfois, je dis, encore, je vais vous confesser quelque chose. J'avais préparé une autre prédication. J'ai dit, Seigneur, ça fait 5 fois que je prêche sur le prix de l'autorité. Ça fait 5 fois que j'ai l'impression d'être quand même relativement direct. Moi, je voudrais aussi leur prêcher un truc gentil. Parce que moi, je voudrais aussi qu'ils m'aiment comme Jean-Marie Ribet et comme Claude. Et... Ouais. Moi, je veux aussi pouvoir faire... J'ai travaillé 3 heures sur un autre message. Et quand j'étais couché dans mon lit, le Seigneur me disait, ce que tu fais me déplaît. Je t'ai dit de prêcher sur ça. J'ai tout pu recommencer. Enfin, j'ai pas tout recommencé. J'ai quand même gardé l'autre si un jour il me permet de le donner. Paul. Une femme suivait Paul. Et il est dit dans Actes 16, 17, 18, ces hommes... Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Encore une femme qui a fatigué Paul. Non, les sœurs, je vous aime vraiment, c'est vrai. Hein? Se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne au nom de Jésus, sors d'elle. Et il sortit alors même. Il n'y a pas de discussion. Quand il y a de l'autorité, il n'y a pas de discussion. Quand il y a de l'autorité, il n'y a pas de discussion. Il ordonne et les démons quittent. Les démons n'ont pas discuté parce que Paul, il le connaissait. Jésus, il le connaissait, mais Paul aussi. Ma conclusion. Pierre, Jean, Paul, nos frères dans la foi, nos prédécesseurs, des hommes que nous pouvons également imiter, comme nous sommes appelés à imiter Jésus et à devenir comme lui, le disciple n'étant pas plus que son maître, mais devenant comme lui. Ces hommes-là avaient de l'autorité dans la prière lorsqu'ils invoquaient le nom de Jésus. Cependant, ils étaient prêts à le suivre dans les bons jours. Dans le livre des Actes, il est dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu d'eux par la main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun d'autre n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Évidemment, ça, tout le monde en désire. Hein? Des grands miracles, tout le monde qui a... Oh, Paul, Pierre, ils sont tous ensemble. Pierre, Jean, Jacques, ils sont tous ensemble. Chut. Mais écoutez bien. Ils savaient aussi être fidèles en tant que disciples dans les mauvais jours. Les apôtres se retirèrent, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils aspiraient à une vie sainte. Le nom de Jésus dans leur bouche n'était pas usurpé. Le nom de Jésus dans leur bouche n'était pas usurpé. Ils étaient des représentants, frères et sœurs, authentiques de celui qu'ils avaient suivi, Jésus-Christ.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.